Sunderlight Production.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, où je vous partage aujourd'hui l'histoire de Sébastien Soulès, le baryton devenu livreur à vélo. Ces trois dernières semaines, vous n'avez pas pu rater son parcours de vie, puisque celui-ci est repris en boucle par toutes les chaînes d'information, titrant « Sébastien Soulès, le baryton devenu livreur à vélo ». Mais en écoutant cet épisode, c'est une toute autre musique que vous allez entendre, puisque je me suis intéressé à son parcours depuis son enfance pour comprendre ce qu'il y a dans la tête de ce cycliste, et ce fut une très belle surprise. Vous allez comprendre à quel point ce livreur à vélo, comme le disent des émissions de télé, est un amoureux du cyclisme, et un réseau de dingue qu'il a su se constituer en Autriche, sa terre d'accueil, qu'il a dû fuir pour cause de Covid, il y a un an maintenant. En Autriche, il y exerçait le métier de chanteur professionnel d'opéra, avec les plus grands orchestres et dans les plus grands lieux de la musique classique. Parallèlement à cela, il s'entraînait, il roulait, avec les coureurs cyclistes autrichiens professionnels, en continental, en world tour, avec des accès aux plus grands tours nationaux. Comme pour beaucoup, la Covid est une formidable occasion de provoquer un changement, de rebondir et d'innover. Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez maintenant comprendre ce qu'il y a dans la tête de Sébastien Soulès.
Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandianini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer.
Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi, puisque comme des millions de personnes, j'ai découvert ton profil, ton parcours semaine passée. Et pendant que le reportage est en train d'être diffusé, j'étais en train de t'envoyer un message sur les réseaux sociaux et tu as répondu immédiatement à mon invitation. Donc, un grand merci pour le temps que tu vas me consacrer, le temps que tu vas prendre pour partager ton parcours auprès des auditeurs. Alors, justement, on parle de ce parcours. Est-ce que tu peux présenter qui est Sébastien Soulès ?
Sébastien Soulès, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies, qui a plusieurs vies, qui a mené plusieurs vies en parallèle. Au tout départ, j'étais prof de maths. Tout ça, c'est loin de notre sujet. Ensuite, et c'est quelque chose de très compliqué, mais je suis devenu chanteur d'opéra professionnel et j'ai fait une belle carrière, 25 ans essentiellement en Autriche et en Allemagne. Et parallèlement à ça, j'ai toujours aimé le vélo et j'ai pratiqué le vélo de plus en plus, jusqu'à un point où le vélo est devenu plus de la moitié de ma vie, où j'avais vraiment un parcours sur deux jambes, une jambe chanteur et une jambe cycliste. Et avec la crise sanitaire, ce qui vient de se passer, la fermeture des salles de concert, etc., toute l'activité artistique a disparu. Et j'ai pu profiter de ma passion du vélo et de mes capacités en vélo pour survivre.
Alors effectivement, on va venir sur justement ce que tu fais aujourd'hui pour vivre et survivre, comme tu le dis. Mais là, dans la présentation, tu m'as donné plein d'informations en fait, sur lesquelles je peux rebondir. Déjà, premièrement, tu étais prof de maths. Et comment on passe de prof de maths à chanteur professionnel ?
Alors,
c'est quelque chose que tu pratiquais depuis tout petit, le chant ? Ou c'est quelque chose que tu as découvert
avec... C'est toujours la question qu'on me pose. Pas du tout. Dans ma famille, absolument personne ne faisait de musique. Rien de tout ça. Mais j'ai découvert ça vraiment tout seul par hasard alors que j'étais adolescent. Et je suis tombé fou de la musique classique, enfin ce qu'on appelle la musique classique. Et vers l'âge de 17-18 ans, j'ai décidé de commencer le chant tout simplement dans la chorale de mon lycée, comme plein de gens. Sauf qu'assez vite, des profs de chant, enfin des gens dans la chorale, puis les profs de chant m'ont dit « Tiens, dis donc, toi, t'as une voix, etc. » Puis ensuite, tout s'est enchaîné. Et bon, moi, j'étais en prépa scientifique, je préparais la grecque de maths et tout ça. Finalement, à 23 ans, j'ai eu un CAPES de maths, j'ai enseigné en plus en ZEP en Seine-Saint-Denis. Mais parallèlement, de conservatoire en conservatoire, je suis rentré à 26 ans au CNSM de Paris. À 28 ans, j'étais professionnel. À 29 ans, je suis parti à Berlin. Et après, j'ai plus quitté la scène. Mais c'est vraiment quelque chose. Alors, ça, je pense que ça va assez bien s'intégrer dans le cadre de cette conversation. On en parlera plus tard, mais j'ai connu beaucoup de cyclistes professionnels. L'art professionnel, comme le chant, mais ça peut être pareil pour la danse ou pour le violon, peu importe. Et le monde du cyclisme professionnel présente énormément de similitudes. En particulier, il y a la première similitude, c'est que sur 5000 personnes qui veulent le faire, il y en a deux qui arrivent. Il faut se battre comme un fou. Et ensuite, la pression, le quotidien, l'entraînement, etc., c'est tout à fait similaire. Donc ça, c'est pour la partie comment je suis devenu chanteur d'opéra. Voilà, enfin, en très gros résumé.
Alors, quand tu dis il y a des similitudes, et je pense que là aussi, ça va rejoindre ce que tu dis, c'est-à-dire que le chanteur et le sportif professionnel, à un moment donné, même si tu as de la volonté, la motivation, c'est le côté physiologique qui fait la différence. Et est-ce que tu as le petit truc en plus ou pas ? Tu vois, par exemple,
on dit souvent en cyclisme que le côté physiologique compte peut-être maximum pour 50%. Il faut l'avoir, si tu ne l'as pas, tu n'as aucune chance, d'accord. Ce qui est bien plus compliqué que le côté physiologique, c'est le côté psychologique de la chose. Comme on dit, celui qui gagne le Tour de France, ce n'est pas le plus fort, mais celui qui sait le plus souffrir. Celui qui fait une grande carrière d'opéra, ce n'est pas forcément celui qui a la plus belle voix, mais celui qui arrive à gérer tous les paramètres et à se battre et à continuer à supporter la pression. Tous les 150 fois par an, c'est le public, c'est les journalistes, c'est les premières, c'est les télés. C'est presque plus dur de rester chanteur que de devenir chanteur et on n'a absolument aucune idée. Être en forme, jamais malade, pas de rhume, toujours au taquet, toujours bon. Quand quelqu'un paye 50 euros pour avoir un concert, il faut que ça soit bien, peu importe ton état. Donc, le côté physiologique, pour moi, le côté physiologique, c'est maximum 50%.
Et tout le reste, c'est le travail, c'est
le travail et c'est le mental.
C'est le mental, bien évidemment. Bien évidemment. Et je reviens un tout petit peu en arrière également. Tu as été prof de maths. Pendant combien d'années tu as été en parallèle avant de basculer professionnel, prof de maths et chanteur ?
J'ai été 2 années prof de maths et je faisais mes études de chant. Ensuite, j'ai tout arrêté avec les maths, etc. Je suis redevenu strictement étudiant en chant, et ensuite au bout de 2 ou 3 ans je suis redevenu professionnel en chant. Mais je suis passé de prof de maths, je dis, quand j'avais 23 ans c'est très bête, hein, mais j'avais une voiture, un appartement, je payais mes impôts, etc. Et à 25 ans j'étais dans une chambre de bonne à Paris avec 500 balles par mois.
Et ça a été une décision difficile à prendre pour toi, surtout, ou peut-être même par rapport à ton entourage qui n'avait pas du tout la fibre artistique.
C'est pas évident à prendre, surtout c'est une prise de risque absolument totale, parce que comme je le disais, quand tu te lances là-dedans, tu ne sais pas si ça marchera. Ceci dit, ce qui facilitait un petit peu la prise de décision, c'est que si ma tentative de devenir musicien professionnel avait dû se terminer par un échec, j'avais quand même, comme on dit, une deuxième corde à mon arc. Mais repartir quasiment à zéro à 25 ans, alors qu'on a déjà fini ses études, etc., bon, oui, c'est pas évident, ça, c'est sûr que c'est pas évident.
Donc, à 29 ans, tu es professionnel, et puis tu as quand même un parcours, hein. Moi, j'ai regardé, bien évidemment, j'encourage d'ailleurs toutes les personnes qui écoutent à aller voir, justement, ton parcours professionnel énorme, et également, enfin, il y a beaucoup, beaucoup un parcours qui est quand même consacré et orienté à l'étranger, principalement.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui fait que c'est la fibre artistique est plus pointue dans les pays d'Autriche, d'Allemagne ?
On dit souvent qu'il y a des terres de cyclisme. Je continue toujours avec ce parallèle parce que c'est formidable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent comprendre les deux. On dit souvent qu'il y a des terres de cyclisme. Je prends un exemple très simple. On va dire, par exemple, en imaginant qu'un Malaisien veuille faire du vélo, il vaudrait mieux qu'il vienne en France ou en Italie, par exemple. Bon, mais il y a des terres de cyclisme, mais il y a des terres d'opéra. Et la terre d'opéra, les terres d'opéra, c'est l'Allemagne et l'Autriche.
Et ça veut dire
Vienne et la Jérusalem ou la Mecque, ça veut dire chacun choisit, ou Rome, chacun choisira sa comparaison de l'opéra, la ville de Vienne en Autriche.
Ça veut dire que tu t'es installé là-bas, puisque là tu es à Tours, mais quand tu étais.
J'ai tout fait pour m'installer là-bas en terminant mes études, en prolongeant mes études à Berlin. Et une fois à Berlin, j'ai gagné des concours qui m'ont permis de rentrer dans des structures en Autriche. Et le but vraiment de ma vie, comme le but, ça peut être de finir à la Quick-Step. Moi, mon but, c'était de finir à Vienne. C'est vrai. Et il y a 10 ans, j'ai réussi à intégrer l'opéra à Vienne.
Et tu disais que tu as rencontré de nombreux professionnels. C'est dans le cadre de ton métier que tu as rencontré ces grands champions ?
Alors, pas du tout. Mais ça va nous emmener un peu plus loin. Alors, si on bascule sur le vélo, en fait… Bon, j'ai toujours aimé faire du vélo. J'ai toujours aimé le vélo. Quand j'étais petit, hein, comme tous les Français, on aime faire du vélo. On regarde le Tour de France, mais sans. Mais j'ai jamais fait de sport quand j'étais adolescent. Enfin, j'étais pas spécialement sportif. Puis ça me plaisait quand même de plus en plus. Et en fait, j'ai eu un fils qui a maintenant 18 ans. Et c'est son grand-père qui était fondu de vélo. Alors lui, le vélo, c'est sa vie. Et donc, vers 30 ans, je me suis mis à faire de plus en plus de vélo avec son grand-père, avec mon fils et son grand-père. Et ça m'a plu, c'est incroyable. Et c'est donc vers 32 ans que j'avais des très beaux cachets à l'époque, dans un festival. Et je me suis acheté mon premier vélo de course. Et je me suis mis à faire de plus en plus de vélo, mais toujours de manière assez discontinue. C'était quand j'avais le temps, il fallait que j'aie le temps, il fallait qu'il fasse beau, il fallait, etc., etc., etc. J'ai eu une expérience un peu traumatisante, exactement 40 ans. Et là encore, la comparaison avec le cyclisme ou avec le sport professionnel est la bonne. De même qu'on peut avoir une blessure qui vous fasse à défaut de terminer votre carrière, avoir un très gros trou dans la carrière, j'ai eu une opération des cordes vocales. Et pour un chanteur, ben, c'est exactement comme, je sais pas, moi, par exemple, un cycliste qui va avoir une blessure de la rotule. Voilà. C'est 6 mois, terminé, rien. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Parce que quand on n'est pas payé, quand on chante pas, on n'est pas payé. Alors, j'avais un peu d'argent de côté, mais bon, 6 mois sans rien faire, c'était inenvisageable. Et il y a un monde qui m'a toujours fasciné, qui existe assez peu en France, c'est très anglo-saxon, on appelle ça les bike messengers, ou les courriers cyclistes en français. Et j'ai contacté une boîte, alors à Vienne, il y en a énormément, j'ai contacté une boîte de bike messengers et je leur ai proposé de venir travailler chez eux en expliquant que j'étais pas mauvais en vélo, que bon, je faisais complètement autre chose, mais que j'adorerais. Ils m'ont pris à l'essai en se disant qu'est-ce que c'est que ce fou. Et ça m'a plu. Et je suis devenu bon. Et là, je me suis mis à faire du vélo tous les jours, par tous les temps pendant 6 mois. Et de fil en aiguille, du coup, après, j'ai recommencé la carrière d'opéra, la carrière de première partie, mais j'ai continué à livrer. Le matin, ou quand j'avais pas de production, ou pendant des vacances, j'ai continué à faire ça. Et là, j'ai vraiment mis, alors là, 2 pieds dans le cyclisme, et 2 fils en aiguille, et là, je me suis mis, alors au bout de 6 mois après, ou 1 an, j'ai intégré un premier club, j'ai acheté cette fois un vraiment bon vélo, j'ai commencé à faire des courses, etc. Puis j'ai trouvé que j'étais pas mauvais en vélo, je suis pas mauvais en vélo pour mon âge. Je me suis mis à faire de la piste, j'ai même un titre de vice-champion d'Autriche sur piste, parce que comme j'étais licencié en Autriche, j'avais le droit de faire les championnats en Autriche. Et comme l'Autriche, il y a beaucoup moins de cyclistes professionnels qu'en France, et que c'est un plus petit pays, ils sont très accessibles. Et toujours de fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer tous les World Tour autrichiens qui sont en ce moment actifs. Et il y en a certains avec qui je suis devenu très très copain, il y en a même qui sont venus à mon mariage. J'ai rencontré un ancien World Tour qui s'est arrêté il n'y a pas longtemps, qui s'appelait René Haselbarter, qui a maintenant une marque de vêtements pour qui j'étais ambassadeur, on faisait des shootings. Évidemment, j'avais beaucoup de followers sur Facebook. Patrick Conrad, avec qui je m'entends très bien, champion d'Autriche, top 10 de Giro quand même. Marco Haller, que j'ai vu il y a 2 jours sur Paris-Nice, qui est souvent venu chez moi, on était très copains. Mathias Brenle, que j'ai à nouveau rencontré il n'y a pas longtemps sur Paris-Nice, avec qui je me suis entraîné en Suisse. Et voilà, et tout ça, malheureusement, c'est aussi terminé avec mon retour en France, parce que j'ai quitté le pays en catastrophe, n'ayant plus.
Le parcours est juste incroyable. J'ai noté plusieurs points.
C'est des choses que je peux vraiment raconter quand on m'interviewe sur Uber Eats, parce que ça n'intéresse personne à part les fondus.
Ouais, non, mais c'est hyper intéressant, comme quoi l'histoire d'un Français que la passion quelque part pour le chant, hein, qui devient son métier, ça l'emmène en Autriche. Là, tu subis une opération qui te fait quelque part. Exactement. En fait, tu as mis à profit cette opération. C'est devenu quelque chose de très positif puisque tu t'es découvert autre chose.
Et quoi qu'il arrive dans la vie, et pardon pour le cliché, mais tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, et c'est absolument la mentalité qu'il faut avoir. On a vu Roglic hier, par exemple. C'est exactement la mentalité qu'il faut avoir aussi bien dans un peloton que sur une scène d'opéra. Et tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. N'ayant plus de voix, il fallait bien que je fasse autre chose.
Et quand tu as eu cette opération, est-ce que tu savais que ça allait être 6 mois et que ça allait repartir, ou tu avais quand même une appréhension?
Non, tu ne sais jamais si ça repartira.
Voilà, tu avais quand même ce doute-là?
Je ne sais pas.
Alors,
tu l'espères très fort, mais tu ne le sais pas.
Tu as dit quelque chose quand tu as eu ton opération. Je reprends tes mots. Tu as dit 6 mois d'arrêt, c'est impensable.
Je suis un hyperactif. Je ne peux pas rester sans rien faire.
Et quand on voit ce que l'on vit maintenant, où on arrive dans la semaine où ça fait 1 an que le virus est arrivé dans nos vies et on a été confinés, eh ben, si tu peux nous expliquer justement cette explosion dans ta vie il y a 1 an, en fait, l'arrivée du Covid, comment ça s'est passé pour toi?
J'ai chanté à l'Opéra d'Athènes exactement le samedi 29 février. Enfin, peut-être, samedi, je suis pas sûr, mais 29 février, je suis sûr. Je crois que c'était un samedi, 29 février 2020. J'ai chanté à l'Opéra d'Athènes et j'avais emmené mon vélo, comme d'habitude. Les organisateurs, dans le monde de l'opéra, tout le monde savait que dès qu'on m'emmenait à l'étranger, j'avais mon vélo avec moi. Et j'avais demandé à prendre l'avion de retour 10 jours après tout le monde. Alors, ça pose pas de problème pour l'organisateur. Et moi, j'ai pris une semaine de vacances. J'ai commencé à vraiment m'intéresser au bikepacking. Et avec un sac de sel, j'ai fait entre le 1er et le 10 mars 2020, 2000 km en Grèce. J'ai fait le tour du Péloponnèse et j'étais le plus heureux des hommes. Je voyais bien qu'il y avait un peu des problèmes en Europe qui commençaient à se poser, mais comme j'étais sur mon vélo au milieu du Péloponnèse au mois de mars, je n'étais quand même pas très, très concerné. Et quand je suis rentré en Autriche le 10 mars, les mails ont commencé à tomber, tous les concerts, tous les engagements annulés pour au moins avril-mai. Et le 12 mars, le 13 mars, la chancellerie autrichienne commençait à parler de confinement pendant plusieurs semaines. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, moi, j'ai pas de famille en Autriche, j'ai juste mon métier. Je suis quand même ici essentiellement parce que j'y travaille. Je vais rentrer en France. J'ai pris mon vélo de livraison, parce que j'avais deux vélos, mon vélo de course et mon vélo de livraison. J'ai pris un peu quelques affaires, deux sacs à dos. Tout de suite, je suis allé chez mes parents. Ça fait longtemps que je suis pas allé chez eux. Mon fils est dans le coin. Puis je vais y passer un mois. Je vais attendre de voir ce qui se passe. Bon, on a assez vite rappelé, compris que ça ne durerait pas un mois. Mes concerts ont été annulés dans la foulée. Alors, toutes les semaines, c'était un mois plus tard, juin, puis juillet, puis août, puis septembre. Je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. Et comme je l'avais déjà fait et que je savais le faire, j'ai aussi travaillé comme, j'ai travaillé dans deux startups aussi, cycliste. Une startup qui, à l'époque, ça s'appelait Foodora et qui était un des pionniers de la livraison à domicile. J'étais colocataire avec le responsable de Foodora pour l'Autriche et l'Allemagne. Et j'étais moi-même messenger là-dedans, mais surtout, en fait, je m'occupais d'optimiser la technique de livraison des coursiers. Et par ailleurs, j'ai travaillé dans une start-up qui a été créée par le père de Marco Haller, donc qui est chez Bahrain Victorious maintenant, qui consistait à organiser des voyages haut de gamme en vélo de course. Et moi, j'organisais des voyages qui alliaient à la fois culture et cyclisme. Donc, quand je suis rentré en France, j'ai immédiatement monté deux micro-entreprises, une pour être livreur en France et une pour tenter de réorganiser des voyages. Bon, les voyages, compte tenu de ce qui se passe depuis un an, vous imaginez, je ne peux plus faire un seul voyage. Bien que j'ai eu des demandes, malheureusement. J'ai même eu des clients, j'ai dû les annuler moi-même. Ça m'a fait mal. Et par ailleurs, en 15 jours, parce que c'est assez facile, j'ai pu devenir livreur chez Deliveroo et Foodora à Blois. Et je continue, parce que c'est ma principale source de revenus. Je continue à faire ça.
Donc, si j'ai bien compris, tu es rentré d'Autriche à vélo, c'est ça?
Ah non, je suis rentré d'Autriche en voiture, à vélo dans le coffre.
Avec mes vélos. Ça aurait pu être possible.
Ben, j'avais pas le temps parce que je suis parti le 13 et le 14 c'était
oui parce que les frontières se fermaient effectivement moi
et bon,
au moment où les frontières se sont fermées j'étais dans une épreuve
mais j'ai déjà fait un Vienne-Strasbourg en vélo en bypacking.
D'accord, donc tu es déjà le bypacking pour toi ça te parle donc c'est intéressant puisque moi je suis organisateur d'une épreuve qui s'appelle la Race Across France qui passe pas très loin de Tours, d'ailleurs. Et la particularité des cyclistes ultra-distance et des bikepackers, c'est que la nuit, ils chantent. Alors, pour plusieurs raisons. Voilà. Pour plusieurs raisons. Certains, c'est pour se maintenir éveillé, tu vois. Et d'autres, c'est pour faire fuir les animaux. Donc,
L'été dernier, j'étais inscrit à la Three Peaks Race.
Exact, ouais.
Et de Vienne à Nice. Mais bon, compte tenu des conditions et des difficultés pour voyager, j'ai malheureusement dû annuler ma première participation à une course de genre, ce dont j'aurais rêvé. C'est pour ça que j'étais pendant 10 jours tout seul au Péloponnèse. Je m'entraînais et j'ai tenté de voir un peu comment ça se passait. Je roulais de nuit tout seul au milieu du Péloponnèse au mois de mars, justement pour m'entraîner pour cette course. Et j'avais fait mes 2000 km en 10 jours, 30 000 de dénivelé. Je me dis, bon, je suis bon, je peux faire la course. Sauf que bon, alors elle n'a pas été annulée, mais les conditions dans lesquelles c'était, bon.
Oui, c'était plus. Ouais.
Tu me réserves un billet pour 2021. Ah non, on y est déjà. Alors 2022.
On y est déjà. si on pouvait, alors c'est difficile hein, de te demander quelle est la suite pour toi, comment, dans ton métier, est-ce que tu as des informations, comment tu vois l'avenir aujourd'hui Sébastien.
Alors, malheureusement, en ce moment, moi, je rêvais vraiment, c'était vraiment pour moi un début de reconversion professionnelle, d'organiser donc ces séjours, mais vraiment avec un niveau sportif assez élevé et à la fois essayer d'apporter des éléments culturels là-dedans. Bon, mais là, et puis alors, l'autre chose aussi, c'est que j'ai pas mal de contacts, en particulier dans les Flandres, et je voulais organiser des événements, par exemple, autour du Giro par exemple, je connais des gens qui me permettaient d'avoir des passes VIP avec le Tour de Flandre, des choses comme ça. Et j'avais organisé tout ça ou les Strade Bianche, mais ça a été annulé. Tout ça a été annulé. Donc je voulais organiser des choses comme ça. Ça, je l'ai mis complètement en stand-by. En revanche, j'ai développé. Et d'ailleurs, au moment où tu m'as surpris ce matin pour mon ordinateur, j'étais en train de travailler sur ce projet. Puisqu'on parle beaucoup de livraison à domicile de nourriture, je me suis dit, bon, on va faire autre chose, on va encore inventer autre chose, on va revenir en arrière, et j'ai commencé à livrer de la musique chez les gens. Et je suis en train de monter une structure pour aller chanter, pour aller faire des concerts privés chez les gens. Donc là, j'imagine dans les prochains temps, comment reprendre le chant en mode privé chez les gens, et ça marche. Et là, c'est rien que ce matin, j'ai eu deux demandes.
Ah, c'est certain. Ouais, là, je suis convaincu que ça va marcher, c'est évident.
Et, il faut avoir des idées, il faut vivre.
C'est évident.
Et en même temps, pour la livraison à vélo, j'avoue que si ça pouvait ne pas durer trop longtemps quand même, parce que c'est pas très, très rigolo. Mais là, je vais continuer à le faire. Et puis, dès que les choses réouvriront, si j'arrive à repartir dans, dans la vente de voyages et des choses comme ça, mais bon, c'est difficile de se projeter. C'est difficile.
C'est très difficile de se projeter. Par contre, les idées que tu viens de suggérer sont effectivement très, très bonnes. Est-ce que tu as des contacts avec tes anciens collègues, ou que ce soit d'autres chanteurs ou des musiciens, que ce soit en France ou à l'étranger?
J'ai quelques contacts avec des anciens collègues, mais pour tout le monde, la crise est terrible, morale est dans les chaussettes. Et on ne passe pas non plus notre temps à se téléphoner entre nous pour dire comment ça va. Pareil, moi aussi, mal. On parle beaucoup en ce moment, il y a des théâtres qui sont occupés, des choses comme ça. La cérémonie des Césars était honteuse parce que ces gens avec strass et paillettes qui sont venus se répandre alors que même eux leurs films, etc. Mais en revanche, il y a toutes les petites mains du monde de la culture. L'état psychologique des artistes et des techniciens est assez difficilement descriptible.
Est-ce que comme toi, d'autres personnes se sont réorientées vers soit une passion, soit un autre métier? Tu as des infos par rapport à ça?
D'après les retours que j'ai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent avec bon, c'est le hasard qui a fait que la presse s'est intéressée à moi. Hein. C'est parti du hasard le plus total et puis ça fait un peu effet boule de neige. Je reçois pratiquement que des retours de gens qui me disent « Waouh, c'est dingue, t'as fait autre chose et tout ça. » Et donc, j'en déduis que la plupart des gens, en fait…
Ne font pas autre chose.
En fait, l'intermittence, c'est ça le danger de l'intermittence. Enfin, le danger. D'un côté, ça a permis aux gens de surmonter cette année d'un point de vue économique. Mais d'un autre côté, ça ne pousse pas à être immédiatement obligé de faire autre chose pour vivre, ce qui est moi mon cas. Moi, je ne pouvais pas attendre. Les choses ont toujours deux faces. Une médaille, ça a toujours deux faces. Alors, c'est super d'avoir pendant un an l'intermittence. Ça, c'est sûr que c'est bien qu'il s'y prolonge. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais ne l'ayant pas, j'ai dû faire autre chose. Voilà. Faut toujours essayer de retourner la lorgnette pour essayer de voir quelque chose au bout, mais peu importe, ou la démonter, je sais pas. Il faut faire quelque chose.
Ouais, après, il y a aussi peut-être une phase d'acceptation, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, même en France, hein, on nous disait dans 15 jours, puis dans 15 jours, puis dans 15 jours, et puis, bah, écoute, ça fait un an et on a toujours très peu de visibilité sur… tu vois, moi, je suis un des cofondateurs d'un café vélo à Lyon qui s'appelle Grimpeur 5.
Ah, bah, j'en rêve.
Voilà, ça, et aujourd'hui, bah, on a dû fermer notre partie restaurant. En fait, on a ouvert le 2 septembre et on a fermé, on a fermé la partie restauration le 24 octobre. Donc, ça fait déjà plusieurs mois que l'on est dans l'incertitude de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir. Et c'est difficile de te projeter quand tu n'as pas une date ou en tout cas une période dans laquelle l'on sait que tout va repartir. Tu vois ce que je veux dire?
Mais non seulement je le sais, mais je le sais et je le vis avec toi.
si demain l'activité repart, on l'espère tous le plus vite possible, est-ce que ton futur va être à nouveau en Autriche ou est-ce que cette fois-ci,
non,
le confinement va te faire rester en France?
Non, je vais rester en France définitivement parce que des fois, c'est pas de l'ésotérisme et je ne crois pas au destin, mais en fait, pour d'autres raisons strictement d'ordre, strictement familial, je crois qu'il aurait fallu que je rentre en France pour je vais dire juste pour raison familiale. Et donc en fait hier j'étais encore avec ma mère et on se disait finalement heureusement que je suis rentré. Bon, puis par ailleurs, je vais avoir 50 ans, les déménagements, changer de pays, les inscriptions administratives et tout ça, c'est d'une lourdeur épouvantable. J'ai réussi à peu près à reconstruire quelque chose ici. Je ne repartirai pas. Et de même que mon avenir, là, je repars un peu en mode chanteur parce que c'est quand même ce que je sais faire et où j'ai, comment dire, une certaine légitimité. Mais j'ai pas abandonné mes rêves de vivre du cyclisme, que ce soit en organisant des voyages. Tu parlais d'un bistrot vélo. C'est quelque chose. Bon, en France, c'est assez nouveau. Je suis la chose. Hein. Il y en a un à Nice là, qui vient de s'ouvrir. Je l'ai plus, hein, ton projet à Lyon. Hein. Je suis au courant. Mais il y en a très, très peu. Il y en a moins dans toute la France que rien qu'à Vienne, dans la ville de Vienne, qui fait 2 millions d'habitants. C'est un truc qui est dans les pays anglo-saxons. Et je dois dire que ça fait un sacré bout de temps que j'ai cette idée qui traîne en tête parce que j'habite quand même là exactement à 150 mètres de l'itinéraire de ce qu'on appelle la Loire en vélo, qui est une des autoroutes cyclistes de France. Et il n'y en a pas. Moi, j'appelle ça des bistrots vélos. Il n'y en a pas. Ou des bike cafés, en fait. On appelle ça des bike. Dans le monde entier, on appelle ça des bike cafés.
Ouais, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai que ça arrive en France depuis quelques temps, mais après, la mentalité aussi du cycliste français, alors j'allais dire ont changé, peut-être pas, mais commence à changer, puisque moi, je viens de la route et il y a quelques temps encore, quand tu partais t'entraîner 3-4 heures, le français ne concevait pas de faire une pause juste pour boire un petit café entre amis. Il partait 3 heures, il devait rouler. Tu vois, il devait rouler pendant 3 heures sans discontinuer, quoi. Maintenant, ça rentre un peu, tu vois.
Je découvre la pratique cycliste en France sur la route, ici, là. Et en fait, c'est l'inverse. C'est comme si j'étais à l'étranger. Et j'avoue que je ne comprends pas. J'ai passé pendant 3 ans, 2 stages par an à Majorque.
Bien sûr.
Avec, alors c'était des jeunes Autrichiens. Il y en a un qui était quand même en, tu sais, il a gagné une épreuve il y a deux ans en France. C'est Mathias Krizek pour les initiés. Il était en l'équivalent de Pro Conti. Et donc, on faisait tous les matins 4 ou 5 heures ensemble. Et c'était, d'un point de vue social, absolument génial, génial. Et je suis très triste de ne pas retrouver ça en France.
Alors, ça, c'est super intéressant ce que tu nous décris. Quelle est la différence? C'est-à-dire que, si toi, tu peux mettre un mot sur ça, quelle est la différence sur le côté social? Ça veut dire qu'on ne partage pas assez en France?
D'abord, la première chose que j'ai trouvée en Autriche, en Allemagne, j'ai roulé aussi un peu, même pas un peu d'ailleurs, beaucoup aussi en Italie, etc., mais avec des... C'est alors, en France, c'est un gros mot, mais c'est une espèce de discipline, mais aussi de collégialité dans le groupe. On roule vraiment en rempart deux, ce qui est beaucoup moins dangereux. On ne voudrait jamais une équipe pro où tu as un espèce de tas au milieu de la route qui gueule « Quoi de l'heure ?» Tu prends la moitié de la route, il faut freiner, il faut manger. Non, tu es paf, paf. Et tu as toujours quelqu'un avec qui discuter. Donc, pendant que tu roules, mais tu ne discutes pas parce que tu fais du 26 à l'heure en regardant les alouettes. Tu es à 35 à l'heure dans ton groupe et tu discutes. Et les deux devant, c'est les deux seuls qui ne discutent pas. Et quand ils s'écartent, ils se mettent derrière. Et donc, c'est social et organisé. C'est comme un débat télévisé. Si tout le monde parle en même temps ou si c'est le bordel, il n'y aura rien. Si c'est structuré, c'est pour ça qu'en général, on met quelqu'un qui essaie de faire un petit peu que ça ne se passe pas trop mal. Là, du coup, c'est constructif. Et donc, ça se fait pendant qu'on roule. Et ensuite, effectivement, on avait un QG, c'était un bike café, justement. On se retrouvait toujours une demi-heure avant le départ. On prenait un café, un croissant ou un sandwich, un petit déjeuner ensemble. On mangeait quelque chose. On partait à 10h, à 9h30, on était dans le
bike café.
Comment on dit en français? Le bike café.
Voilà, ça, le bike café.
on avait, je sais pas, 50 parcours type, mais on avait, bon, comme là, je parle autour de Vienne, à Majorque, j'imagine bien aussi. Il y a partout des cafés, des petites boulangeries dans des bleds, mais alors il y a toujours des tables. Et on sait très bien, on va faire la pause au bout de 3 heures à tel endroit. On s'y arrête, pof, on colle nos vélos devant la rue, on rentre. La personne sait qu'on arrive et écrit déjà 8 cafés. Hop, 8 cafés. Et à la fin, bon, sauf si on arrive trop tard et pour des raisons familiales, quelqu'un dit excusez-moi, il faut que je rentre à ma femme. Je me fais prendre un coup de roue à la pâtisserie, il faut que je rentre. Mais à la fin, on s'arrête à nouveau dans un débat. Et là, c'est de manière de tout le monde vole comme des moineaux. Tout le monde dit ciao et rentre chez lui à la fin. Et moi, parce que ça fait un an que je suis dans un club, ils ne seront pas contents. Ça fait un an, j'ai pas pris un apéritif avec les gens. Bon, tu vas me dire que c'est interdit au café, mais c'est pas compliqué. On passe devant chez quelqu'un, les rentre boire. Ça n'est jamais arrivé. Ils ne seront pas contents de l'entendre, mais c'est la réalité. De toute façon, c'est comme ça. Je trouve ça extrêmement frustrant socialement que ça ne soit pas. Voilà. J'ai décrit de manière peut-être un petit peu brute de décoffrage, mais c'est comme ça que je le
fais. Non, mais je te rejoins puisque moi j'ai beaucoup observé le cyclisme ultra-distance autrichien. Pourquoi? Parce que en Autriche, il y a le numéro 1 mondial. Voilà, il y a le numéro 1 mondial qui est Christopher Strasser.
J'ai roulé souvent avec lui.
Voilà, qui est un extraterrestre dans notre discipline.
Hein. Point dur.
Voilà, et notamment donc lui, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, mais j'ai surtout discuté avec toutes ses équipes d'assistance. Pourquoi justement? Ben pourquoi le savoir-faire dans la discipline était en Autriche? Eh bien, en fait, ça rejoint énormément ce que tu venais de dire, c'est qu'ils partagent les informations et ils partagent. C'est-à-dire que les teams, entre eux, partagent les astuces de ce qui marche bien pour que l'autre équipe puisse en profiter. Et ce qui fait que ben, c'est que du positif et la spirale, ben, elle ne fait que de monter et les compétences augmentent. Et ils sont aujourd'hui sur des épreuves d'ultra-distance, s'il y a 2 Autrichiens, tu peux être certain qu'il y en a un des deux qui va remporter l'épreuve quasiment.
Et alors, Strasser, je le connais bien. Voilà, une des dernières sorties que j'ai faites en groupe en Autriche, c'est avec lui. C'était peut-être même au mois de janvier. Il ne fait pas chaud en Autriche. Il avait un événement avec un sponsor, une boulangerie justement, en l'occurrence. C'est comme Paul ou l'ami Khalid, enfin, c'était chez une boulangerie. Et donc, il avait invité un événement. Et pour faire long, il avait invité, mais je ne sais pas, on était peut-être 80 ou 100. C'était une très grande enseigne. Et on a passé peut-être 2 heures là-dedans après la course. Et on a tous discuté avec lui. Alors, en plus, moi, comme j'étais, comme je le disais, ambassadeur de la marque de René Haselbacher, moi aussi, je présentais mes fringues. Je lui demandais à Michel, ça t'embête si je fais ça? Mais non, vas-y, au contraire, c'est super. Et donc, voilà. Quoi. Et un autre truc aussi, par exemple, que je trouve invraisemblable, tu dis des équipes profitent. Alors, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais là où je suis, c'est comme ça. L'entraînement du mercredi, le club bidule va rouler tout seul, le club machin va rouler à côté alors qu'on part à 300 mètres d'écart, et le club archiduc va rouler à nouveau tout seul dans son coin. En Autriche, ça n'y arrivait jamais. Il y avait un point de départ, on était 10, et chacun roulait avec son maillot, son équipe. On se faisait la course quand on était en course, mais quand on était à l'entraînement le dimanche matin, par exemple, il n'y a aucune raison de se tirer dans les pattes, on roulait ensemble.
Ouais, donc c'est une mentalité, mais à l'opposé, ça va être un choc pour toi quand même de revenir dans cette...
Non, mais là d'un point de vue cycliste, depuis que je suis rentré en France, ça fait des années que je me suis aussi peu pas éclaté.
Et alors, est-ce que tu pratiques en période de confinement, est-ce que tu as eu l'occasion de rouler sur des applications digitales comme Zwift ?
Oui, bien sûr, j'ai un peu d'énergie sur Zwift. Alors, j'aime pas beaucoup.
Alors, c'est vrai que ça change quand tu aimes le contact avec la nature, c'est différent.
Voilà,
ça te permet de garder un niveau de forme qui est quand même important. Est-ce que tu
sais Absolument.
Si justement les Autrichiens, qui est un pays quand même avec un climat assez rude, pratiquent ce genre de choses ou vont quand même s'entraîner à l'extérieur dans les conditions extrêmes ?
Alors, on roule vraiment à l'extérieur. Par exemple, avant-hier, ici, il y a eu une sortie qui a été annulée, un entraînement club annulé parce qu'il y avait 50 km/h de vent. Pour un Autrichien, c'est parfaitement impensable. Du coup, je me suis tapé mes 100 km tout seul. J'ai fait 3 coms, du coup. Bah oui, pendant le... Et donc, les Autrichiens sont quand même des durs au mal. Mais en 5 ans, pendant un mois, il fait moins 10. Oui, là, ça se suit.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, moi, je suis effectivement l'actualité de Christopher. Il s'entraîne énormément, des heures et des heures.
En Patagonie, il roulait par moins 20.
Voilà. Ouais, non, il est assez impressionnant dans ses performances, dans les watts qu'il développe. Hein. Il a eu longtemps, d'ailleurs, le record des 24 heures avec 1940 km, je crois, parcouru en 24 heures.
Il n'a pas été loin de 1000, il voulait s'entraîner, puis le confinement, je crois que c'est
oui.
un peu...
Oui, mais c'est son prochain, justement, défi, c'est de faire 1000 km en 24 heures. Voilà, mais on est largement...
Voilà, c'est le genre de gens avec qui j'avais le bonheur de rouler, et tout ça, par exemple, bah, c'est malheureusement du passé.
Ouais, et son sponsor, moi, c'est toujours ça qui me fait sourire quand je vois les étrangers, les partenaires qu'ils arrivent à soulever, c'est que son sponsor, c'est un boucher charcutier. Donc c'est. Et depuis des années, puisque c'est un sponsor qui suit le cyclisme ultra distance depuis des années, donc c'était quelqu'un qui accompagnait déjà financièrement des cyclistes ultra il y a déjà 15 ans. Donc c'est quelqu'un qui suit la pratique, qui suit la discipline et qui encourage les plus performants. Mais c'est intéressant de voir là aussi la similitude et la différence avec nous, la relation qu'on peut avoir les partenaires en France. Il y a aussi un écart. Quelle est la suite pour toi, Sébastien, dans les mois qui viennent? Comment tu vois les
choses? Ben là, comme je viens de dire, je suis en train de lancer vraiment, je travaille sur mon projet d'aller offrir un peu de musique chez les gens, parce que malgré tout, je suis quand même musicien, je reste musicien. Et j'aime toujours ça, même si mon idée, c'était vraiment de tout ce dont on est en train de parler, en fait, je pensais que j'allais le faire en Autriche et j'avais commencé à le faire et ça marche. Ça marche. Le rebâtir tout seul en France, ça me paraît d'une complexité, d'une difficulté invraisemblable. Donc, des fois, il faut savoir un peu aussi espérer que des hasards, des choses fassent que je puisse rebondir sur des projets dans le monde du vélo. Mais là, comme on disait tout à l'heure, j'ai quand même beaucoup de mal à me projeter.
Ouais, c'est difficile. Bon, en tout cas, un grand merci. Si tu avais un message à faire passer aux auditeurs qui nous écoutent, on arrive sur la fin du podcast. S'il y avait quelque chose que tu voulais partager ou un message à faire passer?
Prenez vos vélos, sortez et allez voir le monde en vélo.
C'est une très belle conclusion. Je te remercie beaucoup, Sébastien, des minutes consacrées.
J'ai été ravi.
J'ai appris, franchement, là, c'est une belle rencontre, un beau partage.
Je connaissais ce projet à Lyon. Je connais évidemment la Red Crest France, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de mettre un visage sur ce projet.
Eh bien, écoute, un grand merci à toi. Je te souhaite une belle journée, plein de réussite dans tes projets. Bien. Évidemment, comme des milliers de personnes, on va suivre ton parcours et tes idées. En tout cas, voilà. Maintenant, il faut les mettre la mise en action parce que l'idée est formidable, très clairement. Donc, bon courage.
Eh bien, écoute, on aura raccroché. Je continuerai ce que j'ai commencé à faire ce matin et tu iras voir sur mon compte Facebook. Il y a une vidéo faite par un journaliste qui me suit de ma première prestation dans un jardin.
Eh bien, écoute,
voilà. Écoute, je t'invite à aller voir.
Eh bien, c'est parfait.
Livre.
Merci beaucoup, à très bientôt, puis j'espère avoir l'occasion et la chance de te croiser dans la vraie vie. Voilà.
Ouais. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.